La meilleure défense de la démocratie, ce sont ses lois. Mais si l'on vient nous attaquer, chaque citoyen doit se battre comme un soldat.
Bonsoir, bienvenue dans le fil de l'histoire. Aujourd'hui, les Athéniens ont-ils inventé la démocratie? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre ce soir. La démocratie, un mot, un système politique qui, bien longtemps après Athènes, a fait rêver et mobiliser les humains et qui a connu un développement mondial exponentiel. D'ailleurs, les progressistes de la seconde moitié du XXe siècle le croyaient voué à un avenir assuré pour tout le genre humain. Même si, on le savait, ce système était loin d'être parfait, comme le remarquait Churchill en 1947 en mâchonnant son cigare, la démocratie est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres. Mais aujourd'hui, en ce premier quart du XXIe siècle, la réalité mondiale ne prête pas à l'optimisme. Dans un rapport publié en 2025, un institut de recherche suédois révèle que pour la première fois depuis plus de 20 ans, le monde compte plus d'autocratie que de démocratie. Alors que plus de la moitié de la population mondiale, il y a 20 ans, vivait sous un régime démocratique, l'équilibre, en 2025, bascule largement du côté des autocraties, où vivent presque les trois quarts des habitants de la planète. Et pour couronner le tout, la tentation autoritaire semble gagner du terrain. De nombreux citoyens n'ayant plus confiance dans leur gouvernement ni dans la politique, et oublieux sans doute des leçons de l'histoire, se disent prêts à goûter au pouvoir autoritaire. La démocratie serait donc en danger. Alors, est-ce que sur le sujet, les citoyens d'Athènes, par-delà les siècles, auraient par hasard quelque chose à nous dire, à nous apprendre, voire, sans que nous tombions dans les pièges de l'idéalisation ou de l'anachronisme? C'est justement de la démocratie athénienne, de sa naissance, de son apothéose et de son déclin, pas aussi rapide qu'on l'a souvent dit, que nous parlons dans le fil de l'histoire ce soir. Avec vous, Vincent Azoulay, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, spécialiste de l'Antiquité grecque, auteur notamment chez Armand Collin de Périclès, la démocratie athénienne à l'épreuve du grand homme, qui a reçu en 2011 le prix du Sénat du livre d'histoire.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
C'est à toi, au Pallas Athénée, ô déesse, que je consacre ces lauriers olympiques.
Ce jour est un jour de fête pour Athènes. Aucun de nous ne peut oublier que c'est à cette date que le peuple athénien, en décrétant il y a une année l'exil du tyran Hippias, a repoussé le péril d'un régime dictatorial.
Il y a environ 2500 ans, en l'an 510 avant notre ère à Athènes, le tyran Hippias était chassé du pouvoir par une coalition d'aristocrates, parmi lesquels un certain Clisthène. C'est lui, Clisthène, homme politique pour le moins remarquable, mais dont on ne connaît pas grand-chose, qui, trois ans plus tard, décida dans sa ville d'Athènes d'initier des réformes qui allaient être à l'origine d'une des plus grandes révolutions politiques de l'humanité, l'invention de la démocratie. La démocratie athénienne eut donc un début, grâce à Clisthène. Elle eut un développement extraordinaire, dont l'âge d'or fut le 5e siècle, le siècle dit de Périclès, mais aussi le 4e siècle. Âge d'or qui allait faire d'Athènes une capitale culturelle, artistique et philosophique, rayonnant dans tout le bassin méditerranéen. Et puis, elle eut une fin lorsqu'en 322 avant Jésus-Christ, les Macédoniens, qui avaient conquis Athènes, imposèrent à la cité un régime politique oligarchique. C'en était fini de la démocratie athénienne. Mais comment se fait-il qu'à un moment de l'histoire, à Athènes, une cité grecque sur un espace relativement restreint, on ait décidé que le pouvoir, le kratos, appartiendrait dorénavant au peuple, le démos, et qu'on créerait ainsi une démocratia? Que les décisions politiques seraient votées dans un scrutin direct par les citoyens réunis en assemblée, sans distinction de richesse. Encore plus stupéfiant pour nous, que les décisions de justice seraient prises, non par des juges professionnels, et par les citoyens eux-mêmes, tirés au sort et renouvelés tous les ans. Une révolution qui, nous le savons tous, et nous y reviendrons, excluait beaucoup de monde, les femmes, les étrangers et les esclaves. Pourtant, il s'agissait bien d'une révolution. Vincent Azoulay, ce qui se passe à Athènes à partir de 508 avant Jésus-Christ, est-ce que c'est bien une révolution ?
Oui, c'est une révolution. C'est véritablement un changement inédit dans l'histoire de l'humanité. C'est la naissance de la première démocratie formalisée de l'histoire. Mmh. à travers des grandes réformes, effectivement, qui sont associées au nom de Clisthène. Mais celui-ci n'aurait rien pu faire sans l'appui du peuple, et d'un peuple divers sociologiquement.
À quoi ressemble d'abord un peu de géographie, Vincent Azoulay, à quoi ressemble la Grèce et Athènes à la fin du 6e, début du 5e siècle? C'est une petite ville, c'est la campagne, ça ressemble à quoi?
D'abord, la Grèce, c'est plusieurs centaines de cités. Athènes n'est que l'une d'entre elles, mais très importante, mais comparée à nos nations modernes, c'est pas grand-chose. 2500 km², disons un ou deux départements français. C'est une ville, ce qu'on appelle l'Astu en grec, et puis effectivement un territoire rural qui permet de la nourrir en partie. Mais entourée de montagnes et avec un débouché sur la mer, le port du Pirée.
Et combien d'habitants ?
On estime entre 350 et 400 000 habitants, et sur ce total, environ entre 50 et 60 000 citoyens au 5e siècle.
Et donc, qu'est-ce qui se passe exactement avec Clisthène? Quel est le régime politique jusqu'alors? Et pour quelles raisons, donc, il décide, avec d'autres, donc le peuple, d'entreprendre des réformes politiques qui vont conduire à la démocratie? Est-ce que ce changement s'explique par une crise?
Oh oui, une crise et même une guerre civile qui fait suite à une période un peu de glaciation qui a été celle de la tyrannie de Pisistrate et de ses fils, dont Hippias, dont on vient d'entendre parler. Et c'est effectivement après la chute d'Hippias, par une coalition d'aristocrates, que va éclater une guerre civile entre les élites qui auparavant étaient sous la coupe du tyran. Et la solution qui va être trouvée, une solution par le haut, où l'un de ces aristocrates, Clisthène, va s'appuyer pour le peuple pour mettre en place des réformes qui vont, d'une certaine façon, empêcher désormais les aristocrates d'accaparer le pouvoir.
C'est assez étonnant que ce soit un aristocrate qui décide d'instaurer une démocratie, de faire appel au peuple, pour justement empêcher d'autres aristocrates de prendre le pouvoir. C'est étonnant.
C'est étonnant, et peut-être que l'une des conditions de l'apparition et de la pérennité d'une démocratie, c'est que les élites sont en conflit entre elles. Et donc,
Pour mieux régner.
Exactement.
Et donc ce Clisthène est un aristocrate, et quel est son intérêt à donner le pouvoir au peuple?
Donner le pouvoir au peuple, et le peuple le prend aussi lui-même, oui, à travers Clisthène, disons-le dans les deux sens.
C'est-à-dire qu'il y a une révolte
Oui, il y a une révolte, et Clisthène s'appuie sur le peuple pour effectivement prendre l'ascendant, et il va faire une réforme qui a d'abord une composante territoriale. Il va brasser la population, et en même temps l'augmenter. Il fait deux choses à la fois. Alors, brasser la population, c'est-à-dire que désormais, il va introduire des institutions qui vont fonctionner sur le rapprochement de citoyens qui, auparavant, ne se connaissaient pas. Des gens de la côte, des gens de l'intérieur et des gens de la ville. C'est un peu comme si Neuilly, Sarcelles et Brie-Comte-Robert se retrouvaient dans les institutions de la communauté et, par là, créaient une forme d'intelligence collective.
Presque une nation, enfin...
Alors, une
c'est
nation,
un mot,
en tout cas une communauté politique capable de délibérer avec des intérêts divergents, mais réussissant à trouver des compromis.
On ne parle pas encore de démocratie à ce stade, mais d'isonomie. Isos, c'est égal, et nomos, c'est la loi. Donc, une même loi pour tous, c'est ça?
Oui, égalité devant la loi, et nomos, c'est aussi le partage. Donc, c'est vraiment une égalité aussi dans le partage du pouvoir qui se dessine.
Et donc, l'idée, ce n'est pas encore une démocratie, mais on restreint le pouvoir des aristocrates, c'est ça?
Oui, on restreint le pouvoir des aristocrates. On instaure notamment une assemblée qui va s'appuyer sur un conseil de citoyens tirés au sort. Et donc, venant de ces différents districts de l'Attique, le territoire d'Athènes. Et c'est désormais l'assemblée, effectivement, qui va avoir le véritable pouvoir.
C'est déjà l'ecclésia, ce qu'on appelle l'ecclésia.
Déjà l'Ecclésia, effectivement, dès le départ, qui désormais décide de la vie de la communauté dans toute sa diversité et sa complexité,
donc
directement.
L'Assemblée, et il y a la boulée.
Il y a la boulée, le conseil, qui est composé de citoyens tirés au sort. Il y en a 500, à raison de 10 par tribu, seulement pour un an. Un autre grand principe de la démocratie athénienne, c'est-à-dire qu'on donne des charges, on donne du pouvoir, mais pas trop longtemps.
Il faut imaginer la scène. Nous sommes à Athènes au 5e siècle avant notre ère. des milliers d'hommes, tous citoyens, montent sur la Pnyx, une colline au centre de la ville, située à l'ouest de l'acropole. C'est là, en plein air, que se réunit l'Ecclésia, l'assemblée souveraine des citoyens. Pour la première fois, semble-t-il, dans l'histoire de l'humanité, tous les citoyens mâles, âgés de plus de 18 ans, ont le droit de voter, vote à main levée, et de participer au débat sur les propositions de loi qui ont été préparées par le Conseil de la Boulée. La Pnyx a été choisie car elle est plus calme que l'Agora, la principale place publique d'Athènes, située en contrebas. Suivant un rite immuable qui se répète 40 fois par an, les milliers de citoyens qui ont été appelés à se réunir ce jour-là arrivent très tôt le matin, avant même le lever du soleil. Certains viennent de la campagne et ont dû marcher de nuit pour être à l'heure. Sur les 40 000 citoyens que compte Athènes, seuls 5 à 6 000 font le déplacement régulièrement. Pour justement inciter ceux qui seraient tentés de ne pas se déplacer ou d'arriver en retard, on finira par créer une indemnité, le mistos, qui n'est délivrée qu'aux 6 000 premiers arrivants. On imagine la cohue au pied de l'escalier qui monte à la Pnyx. Une fois en haut de la colline, les citoyens s'assoient en demi-cercle, à même la pierre ou par terre, pour écouter les orateurs qui, en face d'eux, vont prendre la parole. Avant que la séance ne commence, on procède à des rites religieux, le sacrifice d'un animal, puis une purification du lieu. Enfin, un héros, sorte de maître de séance, s'adresse d'une voix forte à l'assemblée pour prononcer la phrase rituelle « Qui veut prendre la parole ?» Cette question n'a l'air de rien. En réalité, elle est d'une audace incroyable, révolutionnaire même, puisqu'elle dit que n'importe quel citoyen, qu'il soit riche ou pauvre, puissant ou non, instruit ou pas, peut, s'il le désire, prendre la parole pour participer aux débats et aux décisions politiques. Dans une pièce de Ripide, Les Suppliantes, le personnage de Thésée fait l'éloge de la démocratie athénienne et la prise de parole fait partie de ses qualités, au même titre que l'égalité de tous devant la loi. « Pour un peuple, dit Thésée, il n'est rien de pire qu'un tyran. Sous ce régime, il n'y a pas de loi faite pour tous. Un seul homme gouverne et la loi, c'est sa chose. Donc, plus d'égalité. Tandis que sous l'empire de lois écrites, pauvres et riches ont les mêmes droits. Le faible peut répondre à l'insulte du plus fort, et le petit, s'il a raison, vaincre le grand. Quant à la liberté, elle est dans ces mots « Qui veut prendre la parole ?» Voilà comment Périclès décrit la démocratie.
« Comme les choses dépendent non pas du petit nombre, mais de la majorité. Le nom que nous donnons à notre régime politique est démocratie. La loi fait à tous la part égale. Tandis que les titres, si l'on se distingue en quelques domaines, ce n'est pas l'appartenance à une catégorie, mais le mérite qui vous fait accéder aux honneurs. Inversement, la pauvreté n'a pas pour effet qu'un homme, pourtant capable de rendre service à l'État, en soit empêché par l'obscurité de sa condition. »
Dans les faits, il est probable qu'à Athènes, les citoyens les plus timides, les plus modestes dans tous les sens du terme, aient souvent laissé la parole aux citoyens plus brillants, plus instruits, plus sûrs d'eux. Et quand un paysan ou un artisan potier ose tout de même s'exprimer, il arrive que le public ricane. Aristophane, l'auteur de théâtre, par exemple, se moque du manque d'instruction de certains orateurs. Cette assemblée de l'Ecclésia n'en est fait rien d'une sainte messe. Les hommes crient, discutent, s'interpellent, rigolent. Et quand un orateur s'adresse à eux, il leur arrive de l'applaudir bruyamment ou au contraire, encore une fois, de se moquer de lui, voire pire, de l'insulter. Le philosophe Platon, qui était un grand ennemi de la démocratie, n'a pas de mots assez durs pour dénigrer cette assemblée bruyante, désordonnée, chahuteuse, manquant de sérieux. Dans son livre « La République », Platon compare la démocratie à un navire où tous les passagers voudraient être capitaines alors qu'ils ne connaissent rien à la navigation. À ses yeux, en démocratie, les décisions importantes sont prises par des gens qui n'y connaissent rien, ou qui sont manipulés par des orateurs habiles qui flattent leurs désirs au lieu de leur dire la vérité. Pour Platon donc, la démocratie, c'est la dictature de l'ignorance. C'est vrai a priori que 5 à 6 000 citoyens qui se réunissent en plein air pour discuter des lois et les voter, on imagine le grand bazar que cela devait être. Et pourtant, force est de le constater, ce système démocratique a fonctionné pendant plus de 2 siècles à Athènes. Vincent Azoulay, la révolution démocratique d'Athènes, est-ce que c'est sa plus grande originalité, cette assemblée des citoyens ?
C'est l'une de ses plus grandes originalités. Le fait effectivement de s'assembler, mais au-delà de délibérer ensemble. Il ne suffit pas de s'assembler, il ne suffit pas d'être ensemble, il ne suffit même pas de parler. Il faut organiser.
Il faut s'écouter d'abord.
Il faut s'écouter et il faut organiser la délibération. Et c'est là où Platon est de mauvaise foi, parce que les Athéniens ont pris grand soin à organiser la délibération, à aussi évacuer toute une série de sujets techniques qui sont votés d'un bloc, de façon qu'on aille directement au cœur des choses, et là, qu'il puisse y avoir des points de vue contradictoires, extrêmement discordants, mais qui sont organisé dans une délibération qui est menée par les prytanes, c'est-à-dire la direction tournante du conseil, de la boulet. Et tout cela permet une qualité de délibération, permet des votes la plupart du temps unanimes et qui, bien sûr, sont contestables, et l'Assemblée peut même revenir sur certaines de ces décisions, mais qui, effectivement, ont été extrêmement fonctionnelles et ont fait d'Athènes une puissante cité.
Est-ce qu'on a des récits de ces assemblées d'Ecclésia ? Est-ce que ce sont toujours les mêmes qui parlent, en fait, dans les faits, ou est-ce qu'il y a vraiment un roulement de citoyens qui s'expriment ?
Alors, il y a un roulement, on le sait grâce aux inscriptions, avec le nom des proposants, ceux qui proposent des décrets ou des lois au 5e siècle, et on voit une certaine diversité. Après, malgré tout, il faut quand même des compétences rhétoriques pour pouvoir, comme ça, vous l'avez très bien dit, s'adresser à un peuple qui est remuant. Alors, sur une colline en plein air, sans micro, avec des gens qui rigolent, qui palabrent, qui écoutent à moitié, souvent, dit Aristophane. Donc, il faut, malgré tout, un organe vocal et une capacité rhétorique pour tenir le peuple.
Mais est-ce qu'il y a, vous pensez, des paysans, des artisans pauvres qui s'expriment aussi ?
Il y en a, c'est vrai que malgré tout, si le principe est l'iségoria, c'est-à-dire le droit égal de tous à prendre la parole, en réalité, malgré tout, il y a une certaine spécialisation et des hommes qui viennent à l'Assemblée et qui prennent la parole sur la béma, sur le piédestal où l'orateur se juge, plus qu'à leur tour.
Il y a donc la boulée et il y a aussi l'élié, qui est un tribunal populaire qui est très original.
Oui, tout à fait. Peut-être même que j'y verrais la principale originalité de la démocratie athénienne. Il y a effectivement cette délibération collective, mais il y a aussi le fait de mettre sous contrôle notamment les élites politiques, ceux qui précisément s'adressent plus que les autres à l'Assemblée, ceux qui se présentent au tirage au sort ou à l'élection pour être magistrats. Ils sont jugés dans les tribunaux par toute une série de procédures qui les visent explicitement et qui permettent de contrebalancer le pouvoir qu'ils exercent par une responsabilité éminente.
Mais ce tribunal, ce n'est pas un tribunal où on juge des crimes ou des délits.
Alors, il y a bien sûr un tribunal où on peut juger des crimes, et il y a des affaires privées, même si l'aréopage garde la main mise sur les affaires de meurtre. À l'élié, on va des délits du quotidien jusqu'à la grande criminalité politique et aux accusations de trahison. On juge un peu tout. Mais c'est vrai qu'il y a cette spécificité de l'élié, des tribunaux populaires, qui est de juger les élites, et notamment les plus puissants dans la cité. Et ça permet véritablement une domestication des hommes politiques inédite dans l'histoire.
L'historien et géographe grec Hérodote, qui a vécu donc au 5e siècle, à la grande époque, a écrit aussi, lui, un bel éloge à la démocratie. Il parle de l'excellence de l'égalité. Et bon, il parle plutôt à ce moment-là des réformes de Clisthène, mais son propos me semble valable pour le 5e siècle aussi. Il écrit « Dans la servitude, les Athéniens se conduisaient volontairement en lâches, pensant qu'ils travaillaient pour un maître. Au lieu qu'une fois libérés, chacun trouvait son propre intérêt à accomplir sa tâche avec zèle. »
elle. C'est peut-être ce que Jacqueline Romilly, qui était aussi une grande helléniste, une spécialiste de la Grèce, appelle l'élan démocratique. Sorte que la démocratie, ça donne une sorte de fierté d'être citoyen, de participer à la vie de son pays.
Oui, et puis il y a des choses pour lesquelles se battre. Un contenu substantiel à la citoyenneté, des avantages. Donc, quand il y a de véritables avantages à être citoyen, il y a des choses à défendre. Et donc, ça vaut le coup de risquer même sa vie. Get up, stand up. Stand up for your right.
Inter. Le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Comment peut-on parler de démocratie quand les citoyens qui la font vivre ne représentent que 10% de la société ? C'est bien le cas à Athènes. L'historien Pierre Vidal-Naquet n'y va pas par quatre chemins. Pour lui, la cité grecque est tout simplement un club d'hommes fermé sur lui-même. Un véritable fossé, dit-il, sépare les citoyens des autres, les non-citoyens, c'est-à-dire les femmes, les étrangers, les enfants et les esclaves. Sur cette question, la grande spécialiste de la Grèce antique, Jacqueline de Romilly, morte en 2010, balayait l'idée à ses yeux absurde et anachronique qu'on puisse être choqué de l'absence des Athéniennes à la citoyenneté, en rappelant qu'elle-même, dans sa jeunesse, n'avait pas pu voter. De même pour l'esclavage, il n'y a pas si longtemps, dit-elle, que l'esclavage a été éradiqué. Il n'est même pas éradiqué de toute la planète aujourd'hui. Alors, pensez au 5e siècle avant Jésus-Christ. Oui, mais cela n'empêche pas qu'on puisse se demander comment les femmes, les étrangers et les esclaves vivaient et étaient considérés dans la démocratie athénienne, eux qui étaient si nombreux, 90% de la population. Dans sa comédie « L'Assemblée des femmes », Aristophane, au début du IVe siècle, imagine que les femmes d'Athènes se révoltent. Pendant que leurs maris dorment, elles décident de se déguiser en hommes, barbe comprise, et d'aller à leur place prendre la parole à l'Assemblée des citoyens.
Avez-vous tout ce qu'il vous faut ?
Oh, mais certainement.
Voilà, le manteau de mon mari. Le bâton de mon mari.
Bien.
Les sandales de mon mari. Et la barbe.
Voilà, mienne, si elle est belle.
Et la mienne. Et la mienne, mais très chère. Vous voyez comme elle est blonde et soyeuse et frisée. Par Aphrodite, j'en suis toute retournée.
Non, écoutez, femme.
Chut, et ne perdons pas de temps. L'assemblée va bientôt s'ouvrir. Alors, il convient d'arriver les premières. Il ne faut pas, vous pensez bien, qu'on nous soupçonne d'être des femmes. Alors, mettez vos barbes.
Mais, comme vous pouvez l'imaginer, il est difficile dans la production philosophique ou littéraire grecque de trouver un texte écrit par une femme, mis à part la poésie de Sappho, ou de trouver un auteur qui ferait l'éloge des femmes. Depuis le mythe de la première femme, Pandora, et de sa fameuse boîte d'où seraient sortis tous les maux de l'humanité, jusqu'à Aristote, qui justifie, par la nature, l'exclusion des femmes de la politique en les comparant à des animaux. De même, dit Aristote, qu'il est préférable pour tous les animaux domestiques d'être dirigés par des êtres humains. De la même manière, la relation entre le mâle et la femelle dans la cité est par nature telle que le mâle est supérieur, la femelle inférieure, que le mâle dirige et que la femelle est dirigée. Mais dans la réalité athénienne des 5e et 4e siècles, comment vivent les femmes ? Première chose qui va à l'encontre d'une vieille idée reçue longtemps rebâchée, non, les femmes grecques ne vivent pas enfermées dans un gynécée, une pièce de la maison qui prétendument serait réservée aux femmes. La femme athénienne peut se promener sur l'agora, participer à des cérémonies religieuses, voire peut-être même tendre l'oreille au débat qui se déroule sur la Pnyx. Mais si les femmes ne participent pas au même titre que les hommes à la vie civique d'Athènes, peuvent-elles néanmoins être considérées comme citoyennes ? Ou au contraire, les femmes, les étrangers et les esclaves sont-ils radicalement exclus de la communauté ? Vincent Azoulay.
Ah, il faut distinguer. Pour les esclaves, c'est sûr, l'exclusion est tout à fait radicale.
Totale.
Pour les femmes et pour les étrangers, c'est un petit peu différent et un petit peu plus compliqué, peut-être plus intéressant.
Les femmes d'abord ?
Alors, les femmes sont citoyennes. Le terme existe, on parle de politis, politidae, ou astai. Il y a véritablement une citoyenneté des femmes, mais qui effectivement s'arrête aux portes de l'Assemblée et des institutions politiques formalisées. En revanche, elles ont un rôle éminent, voire crucial, dans les relations que la cité, que la communauté entretient avec les dieux. Et c'est absolument crucial. Les prêtresses, notamment la prêtresse d'Athéna Polias, la gardienne de la cité, c'est une femme, et Lysistrata, la Lysistrata d'Aristophane, en est inspirée tout à fait directement. Il y avait une prêtresse qui s'appelait Lysimachée, qui a pendant 64 ans été prêtresse d'Athéna Polias, et qui est celle qui a inspiré le personnage d'Aristophane. Donc, les femmes sont exclues de la citoyenneté au sens politique, mais elles sont citoyennes et elles jouent un immense rôle dans l'ordre sacral de la communauté.
Et les étrangers, alors qui sont-ils, ceux qu'on appelle les métèques ? Est-ce que ce mot en grec a une dimension méprisante et raciste, comme le mot métèque a pris en français ?
Alors absolument pas. Hein. Les métèques, c'est l'étranger domicilié, c'est le fait qu'au bout d'un mois de résidence, on est obligé de s'enregistrer auprès d'un citoyen qui devient le patron du métèque et qui va pouvoir faire toute une série d'actes juridiques pour celui-ci, notamment s'il a des problèmes qui l'amènent au tribunal, il a besoin d'un représentant. Mais en revanche, les métèques sont protégés, ils participent à la vie de la collectivité, ils participent à certaines grandes fêtes, des grands sacrifices. Alors certes, parfois pas au même titre exactement que les citoyens, mais ils sont intégrés, ils combattent aux côtés des citoyens. Ils sont taxés aussi, comme les citoyens, et ils ne sont en rien méprisés.
Et les esclaves, alors qui sont-ils ?
Alors les esclaves...
D'où viennent-ils aussi ?
Alors, ce sont soit des prises de guerre. Quand on perd une bataille, eh bien, l'un des risques pour les hommes, les femmes ou les enfants, c'est de devenir esclaves. Ils viennent aussi de certains marchés d'esclaves, parce que effectivement, la Grèce est l'une des premières sociétés esclavagistes de l'histoire. Donc, il y a plusieurs moyens de les acquérir, hein, par la guerre, par le commerce. Ils sont très nombreux, hein, plusieurs centaines de milliers, certainement 4 pour un citoyen à Athènes. Ce qui ne veut pas dire, et c'est très important, que les citoyens athéniens ne travaillent pas, et que tout le travail serait accompli par les esclaves. La plupart des Athéniens travaillent. Mais ces esclaves sont donc des Grecs et des barbares, ceux des non-Grecs, qui viennent notamment d'Asie mineure, de Carie ou de Thrace, du monde Scythe. Il y a une grande variété de ces esclaves qu'on appelle des esclaves marchandises.
Est-ce qu'il y a eu des époques où la démocratie athénienne a fait accéder des étrangers ou des esclaves à la citoyenneté ? Bon, je ne parle même pas des femmes, mais...
Tout à fait.
Des esclaves ont pu devenir citoyens.
Des esclaves
citoyens.
Sont devenus d'abord étrangers, voire citoyens. On a des trajectoires météoriques, par exemple le banquier Pasion, qui passe de l'esclavage à la citoyenneté. Mais on a aussi des moments de crise, notamment lorsque Athènes est en difficulté contre Sparte, peut-être même à Marathon, au début de la démocratie athénienne, lorsque Athènes est confrontée aux Perses, on a la promesse de liberté faite aux esclaves en échange de leur appui militaire.
Et il y a une question de fond, évidemment, assez embarrassante. Est-ce que la démocratie athénienne, pour exister, avait besoin de l'esclavage ?
Alors, oui et non. C'est-à-dire que si on pense que toute l'infrastructure économique athénienne dépendait du travail des esclaves, c'est faux. Disons, le peuple travaillait aussi tout autant. Et donc, il ne faut pas imaginer des citoyens oisifs profitant du travail des esclaves. C'est une infime minorité qui peut se permettre ce luxe, cette scolaire, ce loisir, ce qu'a donné l'école. En revanche, l'esclavage a certainement configuré en profondeur le rapport des citoyens à la liberté. Une liberté qu'on pense totale et sans demi-mesure entre la totale liberté et l'esclavage. Donc il y a certainement un rôle imaginaire, il y a un rôle économique bien sûr, mais aussi un rôle imaginaire de l'esclavage dans la façon dont les Athéniens ont conçu leur propre liberté sur un mode absolu, dont l'envers est l'esclave.
Du 5e siècle avant Jésus-Christ, on dit qu'il fut en Grèce l'âge d'or de la démocratie athénienne ou bien le siècle de Périclès. Périclès, issu d'une famille noble et une des plus riches, est considéré après Clisthène comme le père de la démocratie athénienne, celui qui, malgré son origine sociale, s'est attaché toute sa vie à limiter les pouvoirs de la vieille assemblée aristocratique, l'aréopage, et au contraire, à renforcer les institutions démocratiques. Plusieurs fois élu et réélu stratège, c'est à son initiative que la démocratie a été étendue à l'ensemble des citoyens et qu'a été créé le mistos, l'indemnité qui permet aux plus pauvres de participer à la vie civique. C'est grâce à lui aussi que les jurés des tribunaux ont été rétribués afin que les citoyens les plus pauvres puissent participer au procès sans perdre le gain d'une journée de travail. C'est à son initiative aussi que l'on doit la conception et la construction par le sculpteur architecte Phidias d'un des plus beaux monuments du monde, le Parthénon, le temple en marbre consacré sur l'acropole à Athéna, déesse de la guerre et de la sagesse et protectrice de la cité. Périclès, qui s'est imposé comme maître incontesté d'Athènes pendant plus de 30 ans, reste au pouvoir presque sans interruption jusqu'à sa mort en 429 avant Jésus-Christ, emporté par une épidémie. Mais Périclès est controversé à Athènes. Certains poètes le ridiculisent ou l'accusent d'être tyrannique. Platon ne voit en lui qu'un dangereux démagogue incapable d'élever ses propres enfants. Au contraire, Aristophane qualifie Périclès d'olympien. Diodore de Sicile affirme qu'il surpassait tous ses concitoyens dans les compétences de l'éloquence, tonnant, éclairant et passionnant la Grèce. Tandis que Thucydide, l'historien, voit en lui l'incarnation parfaite de l'homme d'action et du grand orateur. Du talent oratoire et de la voix, il en faut en effet quand Périclès doit monter à la Pnyx et en plein vent convaincre les 6000 citoyens de l'Ecclésia, qui ne s'en laissent pas compter, d'adopter ses propositions. Mais comment les Athéniens, si farouchement attachés à leurs prérogatives de citoyens, arrivent-ils à concilier leur exigence démocratique et la présence, pendant plus de 30 ans, de ce stratège, hors normes certes, qui pourrait être tenté par la démagogie ou la tyrannie ? Une ambiguïté qui n'a pas échappé à son contemporain, Thucydide.
Périclès avait de l'influence en raison de la considération qui l'entourait et de la profondeur de son intelligence. Il était d'un désintéressement absolu. Sans attenter à la liberté, il contenait la multitude qu'il menait. N'ayant acquis son influence que par des moyens honnêtes, il n'avait pas à flatter la foule. Grâce à son autorité personnelle, il pouvait lui tenir tête et même lui montrer son irritation. Chaque fois que les Athéniens s'abandonnaient à l'audace et à l'orgueil, il les frappait de crainte. S'ils s'effrayaient sans motif, il est ramené à la confiance.
Et Thucydide termine ce passage par un véritable couperet.
Ce gouvernement portait le nom de démocratie. En réalité, c'était le gouvernement d'un seul homme.
Vincent Azoulay, avant d'aborder cette question donc soulevée par Thucydide, de savoir qui des citoyens ou de Périclès manipulait l'autre, si c'est le cas, dites-nous, si vous voulez bien, ce que l'on sait de ce personnage qui est resté au cours des siècles, donc le grand homme, le héros du siècle d'or d'Athènes. Qu'est-ce qu'on sait de lui ? De son physique d'abord, on sait quelque chose ?
Alors, on dit qu'il avait une particularité physique, il était dolicocéphale, il avait un crâne particulièrement gros, mais c'était surtout une blague pour le rapprocher
pour le
de Zeus. Pour le moquer, parce que être rapproché de Zeus, être qualifié d'Olympien, c'est pas quelque chose, une épithète louangeuse. C'est être comme un dieu, voire le roi des dieux, et un roi des dieux qui, sur la scène théâtrale athénienne, c'est aussi ça la démocratie, et moqué également. Zeus est vu comme un tyran, n'en faisant qu'à son gré, violent forçant les femmes et les hommes. Et donc, être qualifié d'Olympien, ce n'est pas une qualité.
Ah, je pensais que c'était une qualité. Ouais.
Eh bien, non.
Et tout le monde ne pense pas ça.
Tout le monde ne pense pas ça. Périclès est également admiré, mais c'est vrai qu'il est contesté et que Thucydide, ce grand historien, oublie tout à fait volontairement de dire que Périclès n'était que l'un des stratèges. Il y en avait 10 qui étaient élus chaque année.
En même temps que lui ? Non.
En même temps que lui.
Ah, en même temps que lui,
bien sûr.
Ouais.
Toujours 10 stratèges, et Périclès doit composer. Il doit composer avec ses collègues, il doit composer avec le peuple, il doit composer avec la menace de procès, et il a été condamné, il doit composer avec la menace de l'ostracisme.
Dites-nous ce qu'est l'ostracisme.
Alors l'ostracisme, c'est une des mesures inventées par Clisthène. Une mesure protectrice du régime. C'est l'idée que la tyrannie ne doit pas revenir. Et donc un citoyen que l'on juge trop éminent, sans qu'il ait commis la moindre faute, peut être exilé pour 10 ans. Et c'est tous les ans que les Athéniens se demandent si cette année, nous allons exiler collectivement un homme juste parce qu'on a peur du pouvoir qu'il pourrait posséder. Et Périclès a été lui-même sous
menacé d'ostracisme.
Tout à fait. Alors c'est son rival qui en a été frappé en 443 avant Jésus-Christ, mais on voit très bien dans les témoignages que le boulet n'est pas passé si loin de la tête de Périclès et qu'il a dû batailler ferme. Donc il ne faut pas imaginer un homme souverain manipulant la foule, c'est un homme sous tension. Et c'est un stratège réélu à de très nombreuses reprises, mais qui à chaque fois doit faire ses preuves.
Et oui, il remet son titre en jeu.
Il remet son titre en jeu chaque année et il n'aurait jamais pu exercer de l'influence si le peuple n'avait pas jugé que les politiques qu'il proposait n'étaient pas conformes à ses propres intérêts.
Donc Thucydide, à vos yeux, se trompe quand il dit que ce gouvernement portait le nom de démocratie. En réalité, c'était le gouvernement d'un seul homme.
Oui, ça revient à dire que la
c'était
démocratie...
C'était un tyran, que la démocratie, ce n'est rien.
Que la démocratie est une fiction.
Il nous fait du Platon, là.
Oui, et on voit bien aussi comment le qualifie l'éducatif démocratique au moment même où il naît est tout de suite remis en cause. Comme aujourd'hui, on dit vivons-nous encore en démocratie ? C'est une question aussi vieille que la démocratie. Et Thucydide, de ce point de vue-là, est un aristocrate qui, exilé par le peuple, et qui n'est pas un démocrate, en tout cas pas un démocrate radical, de façon assurée. Et cette manière, comme ça, d'extraire Périclès et d'en faire quasiment un souverain d'une foule manipulée, mais pour son bien, c'est un mécanisme d'infantilisation qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant.
Périclès a été aussi critiqué pour sa compagne, Aspasie, qui était une femme d'origine métèque, qui était mal vue.
Oui, tout à fait. Souvent, chercher la femme, quand on veut critiquer l'homme, on dit qu'en réalité, le grand homme n'est qu'un pantin manipulé par une femme dans l'ombre. C'est ce que aussi fait croire Platon dans le Ménexène. Et cette Aspasie, effectivement, vient de Milet, très certainement fait partie d'une grande famille, et elle est assez inclassable aux yeux des Athéniens qui en font tantôt une prostituée, tantôt une courtisane, tantôt simplement une femme libre, mais une liberté qui est toujours décriée, notamment par les poètes comiques. Ce qui est sûr, c'est que Périclès en était fort amoureux, puisqu'il avait une première femme, mais qu'il a répudiée pour pouvoir être avec cette Aspasie. De là à en faire, comme les auteurs comiques, la cause du déclenchement de la guerre du Péloponnèse, sur le modèle d'Hélène de Troie, c'est bien sûr une exagération qui vise en réalité à délégitimer Périclès.
Décorer le labyrinthe, le temps d'une vie, cueillir raisins de Corinthe et pêche rubis, marcher, courir, nous éreinte, là restons assis au milieu du labyrinthe, sans chercher d'issue. Tu te promènes seul dans ta vie, comme si c'était celle, celle d'une autre. Tu te promènes seul dans ta vie, comme si c'était celle d'une autre. Regarde là-haut, le ballon s'élève enfin, l'enfant qui chantait a défait le lien. Regarde comme c'est beau, les mains pleines, les mains jointes, nous sommes tous perdus dans le labyrinthe. Sois sans hâte, sois sans crainte, reste un peu ici, la porte joliment peinte, on tombera dessus, suivre une trace, une empreinte. Nous pouvons, ma fille, mais ce chemin qu'on emprunte, on le rend, tu sais. Tu te promènes seul dans ta vie, comme si c'était celle, celle d'une autre. On se promène seul dans nos vies, comme si c'était celle des autres. Regarde là-haut, le ballon s'élève enfin, l'enfant qui chantait a défait le lien. Regarde comme c'est beau, les mains pleines, les mains jointes, nous sommes tous perdus dans le labyrinthe. Regarde là-haut, le ballon s'élève enfin, l'enfant qui chantait a défait le lien. Regarde comme c'est beau, les mains pleines, les mains jointes, nous sommes tous perdus dans le labyrinthe.
France Inter. Le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Dans la seconde moitié du 5e siècle avant Jésus-Christ, l'issue de la guerre du Péloponnèse va mettre en péril la démocratie athénienne. Cette guerre avait débuté en 431 avec Sparte, qui s'inquiétait de l'hégémonie grandissante d'Athènes. Au tournant des années 410, la situation se renverse quand la flotte athénienne, jadis invincible, est détruite à Aigos Potamos, dans les Dardanelles, par le général spartiate Lysandre. En quelques heures, l'empire maritime d'Athènes s'effondre. La guerre du Péloponnèse se termine en 404 avec la victoire totale de Sparte et la capitulation d'Athènes, qui, encerclée sur terre et sur mer, gagnée par la famine, divisée entre partisans de la résistance et partisans de la reddition, est contrainte finalement de se rendre. Une reddition que l'on connaît grâce au récit de l'historien grec Xénophon. Quand les Athéniens furent réduits à l'extrémité, écrit-il, ils se résolurent à obéir à tout ce que les Spartiates voudraient ordonner. Alors que les Athéniens s'attendent à être réduits en esclavage et à voir leur ville détruite, les Spartiates se montrent relativement cléments. Athènes doit cependant renoncer à son empire, payer un tribut à Sparte et lui livrer ses vaisseaux. Et elle perd ses remparts, les longs murs qui relient la cité au port du Pirée.
Aujourd'hui, 6e jour du mois Munichion, de la première année de la 64e Olympiade, par ordre de Lysandre de Sparte, notre valeureux Polyarque, selon les conditions que nous avons imposées à la cité d'Athènes, nous allons commencer la démolition de ces murailles.
D'après le récit de Xénophon, les murailles d'Athènes sont détruites avec enthousiasme, comme lors d'une fête, dit-il, au rythme endiablé des holos, ces flûtes traditionnelles grecques au son puissant et perçant. Cette défaite a aussi des conséquences politiques. Le général spartiate Lysandre, qui a remporté la bataille navale sur Athènes, accorde la paix aux Athéniens à condition qu'ils appliquent la constitution de leurs ancêtres. Lysandre impose en effet à l'Ecclésia un changement de régime. Le nombre de citoyens est ramené de 20 000 à 3 000 et le véritable pouvoir confié à un conseil de 30 notables, un gouvernement oligarchique appelé le gouvernement des 30. Ses membres sont choisis parmi les amis de Théramène, le négociateur de la reddition, et de Critias, un aristocrate athénien favorable à Sparte, convaincu que la démocratie a ruiné Athènes. Les 30 désignent eux-mêmes les 500 membres de la boulée, le conseil chargé de préparer les lois. C'en est fini donc de la démocratie qui faisait depuis près d'un siècle la fierté des citoyens athéniens. Très vite, le pouvoir des 30 tourne à la tyrannie. Les 30, écrit Xénophon, croyant qu'ils ne seraient jamais en sûreté tant qu'ils laisseraient subsister beaucoup d'hommes d'une âme libre, se mirent à tuer ceux qu'ils redoutaient. Les 30, en effet, procèdent à une série d'arrestations et même d'exécutions de métèques et de citoyens riches dont ils confisquent la fortune. Plusieurs auteurs grecs, dont Aristote, estiment le nombre de victimes de la tyrannie des 30 à 1500 hommes, un chiffre considérable pour une population d'environ 40 000 citoyens mâles. Mais ce gouvernement ne dure que quelques mois. Des exilés, favorables à la démocratie, organisent la résistance hors d'Athènes. Des combats reprennent et en 403, les Athéniens restaurent la démocratie.
Peuple d'Athènes, la tyrannie est morte. La constitution démocratique est enfin rétablie. Nous veillerons tous ensemble à ce que tous les citoyens d'Athènes respectent la loi.
Vincent Azoulay, après la défaite d'Athènes, donc à la guerre du Péloponnèse en 404 avant Jésus-Christ, et l'instauration de la tyrannie des 30, la démocratie est finalement restaurée à Athènes. Athènes a dû être ébranlée dans sa confiance en soi après cette défaite face à Sparte. Ou bien au contraire, elle a été raffermie.
Alors, c'est effectivement, non, elle a été ébranlée, ô combien, par cette guerre qui a au moins divisé par deux sa population citoyenne, parce que l'épidémie de peste ou de typhus, puis les guerres extrêmement sanglantes, et notamment l'expédition de Sicile, donc il y a une brutalisation de la vie politique athénienne qui aboutit à cette guerre civile en 404-403. Mais c'est vrai que ce qui est frappant, c'est la résilience du régime démocratique qui renaît très vite de ses cendres et qui, au IVe siècle, s'affermit. C'est vrai qu'il y a un cliché qui a circulé pendant longtemps, mais qui a été battu en brèche depuis plus d'un demi-siècle, qu'il y avait un déclin de la démocratie athénienne après la guerre du Péloponnèse. Ce n'est pas du tout le cas. Maintenant, tous les historiennes et les historiens sont unanimes pour dire que l'âge d'or de la démocratie, c'est peut-être même pas le 5e, c'est le 4e siècle. Le 4e siècle où cette démocratie s'enracine, se normalise avec des lois, des décrets, une justice populaire qui n'a jamais été aussi exigeante, un pouvoir personnel qui est disséminé dans un grand nombre de mains. Donc une démocratie solide, vivace, et qui ne disparaît, et encore momentanément, que sous les coups de boutoir des Macédoniens. Philippe II, puis Alexandre le Grand, son fils. C'est donc une démocratie vivace auquel on a affaire durant ce long IVe siècle.
Est-ce que l'explosion artistique, philosophique, littéraire, théâtrale, architecturale, donc des 5e et 4e siècles à Athènes, est-ce qu'Athènes le doit justement à la démocratie ?
Oui. Fondamentalement, oui. Il y a, notamment, si on prend la tragédie ou la comédie, une expérience de réflexivité, de retour sur soi des Athéniens par le biais d'une esthétique et d'une forme nouvelle qu'est la tragédie, où l'on se pose des grandes questions à distance, avec des personnages mythiques. Mais c'est absolument extraordinaire la manière dont les Athéniens se sont ainsi interrogés, et interrogés vivement, sur leur travers, sur la façon de conduire une guerre, de traiter les vaincus. Et tout cela, ça se fait par des formes esthétiques. Alors la tragédie en est un exemple. La comédie, c'est une manière aussi de mettre sous contrôle les élites, parce que ces élites, et Périclès au premier chef, mais toutes les élites athéniennes sont moquées, traînées dans la boue, avec une violence extraordinaire. Donc ces formes esthétiques sont pleinement politiques.
Au début de cette émission, Vincent Azoulay, je posais la question de savoir si les Grecs avaient quelque chose à nous apprendre sur notre démocratie, au risque de l'anachronisme, parce que c'est une question pertinente. Qu'est-ce que les Athéniens faisaient mieux que nous ?
Je pense qu'ils donnent à la démocratie un sens extrêmement vif et qu'on ne peut pas résumer simplement sous le terme démocratie directe. Parce que démocratie directe, tout de suite, on va avoir tendance à dire « Ah oui, mais aujourd'hui, avec nos sociétés complexes de plusieurs millions d'habitants, c'est absolument impossible. »
Oui, dans des grands pays.
Dans des grands pays comme les nôtres. Mais en réalité, si on pense que la démocratie, c'est par exemple la délibération collective, assortie à de véritables décisions, eh bien, les expériences de la Convention citoyenne sur le climat, sur la fin de vie, ce sont des expériences délibératives extraordinaires, mais qui n'ont pas de débouchés politiques. Donc, retourner à Athènes, c'est penser des délibérations qui ont des conséquences, et des conséquences bien réelles. Si on pense que la démocratie, c'est essayer de limiter l'accumulation du pouvoir, alors les expériences liées au tirage au sort, à la rotation des charges, c'est quelque chose qui ne dépend pas de la taille du pays ou de sa complexité. Et si enfin on pense que la démocratie, c'est le contrôle des élites, par toute une série de moyens formels et informels, eh bien là aussi, on est face à quelque chose qui ne dépend pas de la taille et de la complexité d'une société. Et cela, je ne dis pas que les Athéniens le faisaient mieux que les autres, mais en tout cas, ils ont inventé des formes inédites dans l'histoire qui sont encore pour nous, potentiellement, des sources d'inspiration.
Merci beaucoup Vincent Azoulay. Je recommande vivement la lecture de votre livre « Périclès, la démocratie athénienne à l'épreuve du grand homme » paru en 2011 chez Armand Collin et à paraître en 2026 « Ostracisme, du bon usage de l'arbitraire en démocratie » aux éditions de l'EHESS. C'est la fin pour aujourd'hui du Fil de l'Histoire. L'émission était réalisée par Claire Destacan et Étienne Bertin, assistée d'Anne-Cécile Perrin et Frédéric Martin, à la technique Jérôme Ragano. Vous avez pu entendre Get Up, Stand Up de Bob Marley et Le Labyrinthe de Feu Chatterton. Vous pouvez vous abonner au podcast du Fil de l'Histoire sur l'appli Radio France. J'attends vos commentaires sur la page de l'émission ainsi que sur Facebook. Rendez-vous lundi pour une nouvelle série du Fil de l'Histoire. Pourquoi en 1949 a-t-on créé l'OTAN ? Avec l'historienne Jenny Raflick.